Carnet de campagne, bonjour. Nouvelle journée en Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Une région qui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 novembre, organise les journées de la transition écologique énergétique. Une quarantaine de sites ouvrent leurs portes, comme celui de la filature de Ronchamp qu'on vous a présenté, qui est un édifice incroyable et un projet inimaginable qu'on vous a présenté lundi. Les visites sont proposées principalement demain et samedi. Elles porteront aussi sur les énergies vertes, hydrauliques, éoliennes, sur l'habitat rénové, les chaufferies bois, les sites de stockage hydrogène. Vous avez un lien à nos pages d'émission avec ces journées. Justement, la SCOP de la Maison Naturelle est une parfaite illustration des nouvelles entreprises coopératives qui participent à cette transition écologique énergétique créée en 2013 par deux jeunes artisans. La Maison Naturelle promeut l'emploi local pérenne. Présentation par Benoît Bourgeois dans un instant. Et puis nos confrères du magazine Village publient un hors-série vraiment indispensable. Il s'appelle « Élus et citoyens en action pour mieux vivre dans les territoires ». Soit une soixantaine d'idées à appliquer près de chez vous. Explication avec Sylvie Le Calvez tout à l'heure, directrice de publication du magazine.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Benoît Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Benoît, cofondateur avec Mathieu Vincent d'une société coopérative, la Maison Naturelle, née en 2013
oui.
À Échenoz-le-Sec.
On dit Échenoz-le-Sec.
Ah oui, parce que normalement, en haute montagne, on dit Ose, et en plaine de Saône, on dit Haut.
C'est ça, on est en Haute-Saône et pas en Haute-Savoie. En
fait. Ouais, c'est ça. Vous avez travaillé dans une entreprise de décoration de vieux bois, murs en pierre, dans les Hautes-Alpes, et puis vous êtes revenu ici dans la plaine de la Saône pour créer cette société coopérative. Je vois que vous défendez beaucoup de valeurs. D'abord, c'est l'utilisation de matériaux bio-ressourcés.
C'est ça, oui. En fait, on a créé notre entreprise autour de ces matériaux. C'est-à-dire que on pense que la solution industrialisée, la rapidité de main-d'œuvre au niveau des maisons anciennes, n'est pas forcément adaptée et que les matériaux biosourcés dans ces vieux bâtiments étaient vraiment plus adaptés par rapport déjà à l'air intérieur de vie et ensuite par rapport à la pertinence et la pérennité des travaux qui sont après faits dans ces maisons. Oui.
Alors, biosourcés, ça veut dire quoi? Chanvre? Paille?
Alors chanvre, paille, après aussi l'industrie de la laine de bois comme des solutions industrielles mais qui partent de matériaux qui sont sains au départ. Chanvre, lin, coton également. Alors le coton, oui, qui lui est importé mais qui fait partie quand même des matériaux qu'on utilise. Et aussi en maçonnerie, la chaux et le plâtre et la terre.
Benoît, il y a de plus en plus de personnes qui veulent réhabiliter par elles-mêmes leur logement ou leur maison. Est-ce que vous avez un rôle de formateur, de conseiller?
Alors dans nos statuts, on peut faire de l'accompagnement aux personnes qui désirent faire l'autoconstruction, oui. Les conseils sont gratuits au départ, l'assistance, elle, bien sûr, est payante, mais on veut donner accès aux gens à des solutions qui paraissent, nous, les plus pertinentes dans le bâtiment.
Oui. Et alors, vous défendez les valeurs de l'économie sociale et solidaire à travers la SCOP, à savoir fonctionnement et gouvernance complètement démocratique.
Alors oui, c'est-à-dire que là, dans l'entreprise telle qu'elle est maintenant, nous sommes 6. Nous sommes 3 travailleurs. Mais au niveau des décisions, ce sont les 6 personnes qui décident. Les travailleurs ont une importance primordiale dans l'entreprise.
Et vous cherchez à ouvrir à d'autres entrepreneurs votre coopérative ou à 6, vous avez un rendement suffisant pour tenir?
Alors, on parlera pas de rendement suffisant pour tenir, c'est-à-dire que la connaissance que les gens ont de notre existence font qu'à 6, on est suffisant pour faire les travaux qu'on a, nous, en devis, en tout cas. Après, l'association, on peut parler, par exemple, d'une quelque chose qui essaie de se mettre en place sous la gouvernance du pôle énergie Franche-Comté, c'est le groupement d'entreprise. Donc, le pôle énergie Franche-Comté aide les personnes qui veulent créer des dossiers de subvention pour l'aménagement et l'amélioration thermique du bâtiment. Mais ces groupements d'entreprises vont aider ces gens-là à avoir une solution plus claire au niveau de la rédaction de devis et sur le montage de dossiers.
Oui.
Jusqu'ici, ces groupements n'existaient pas, donc les gens avaient affaire à plusieurs entreprises qui étaient plus ou moins aussi sensibles aux matériaux biosourcés ou non. Et voilà, maintenant, en fait, on va pouvoir, grâce à ces groupements, orienter les personnes plus facilement vers des solutions qui leur conviendront.
Oui. Et vous êtes nombreux à faire ce type de réhabilitation, de construction, avec ce type de matériaux en Haute-Saône et en Franche-Comté?
Alors, Franche-Comté, si, une autre SCOP qui est basée dans les coins de l'Haute-Saônier qui s'appelle Abricop, qui fait à peu près la même chose que nous. Après, en SCOP, sur la Haute-Saône, on en est quelques-unes, mais pas dans notre corps de bâtiment. On en connaît une pas très loin de chez nous qui fait du chauffage, la SCOP ENR, mais non, sinon, on n'est pas vraiment nombreux en Haute-Saône, pas vraiment.
Est-ce que vous vous attaquez au patrimoine historique, parce que vous en avez aussi en Haute-Saône?
Alors, on en a beaucoup, c'est vrai, qui malheureusement souvent est un peu laissé de côté. Alors on a eu de la chance de faire quelques petits chantiers. Et là, on vient de terminer d'ailleurs une façade à la chaux traditionnelle sur une maison qui est classée au patrimoine.
Et la construction, c'est autre chose. Alors c'est de la construction de maisons particulières que vous pouvez élaborer et réaliser?
L'entreprise, en tout cas, n'est pas habilitée à faire une maison de A à Z. On ne peut pas faire ça. Alors, en revanche, on est habilité à faire de l'ossature bois, de la construction paille. On peut intervenir dans ces corps de métier-là. On est sur la construction du hors-d'eau, hors-d'air, c'est-à-dire couverture, mur, fenêtre.
Avec une sacrée zone de couverture, hein, parce que je vois, vous intervenez évidemment en Franche-Comté, chez vous, mais aussi en Suisse ou en Provence.
Alors, par connaissance, on est déjà intervenu en Ardèche, par exemple. On peut se déplacer, oui, c'est sûr. C'est une très haute connaissance qui fait que on peut comme ça s'évader un peu de la Haute-Saône. Mais principalement, notre travail, et on le veut comme ça d'ailleurs, c'est en Haute-Saône.
Je conseille aux auditeurs, auditrices, d'aller sur votre site pour voir déjà les réalisations effectuées, parce que c'est un superbe ouvrage, comme on dit. La maison au naturel.fr pour l'adresse, la page Facebook, une toute jeune SCOP installée à Échenaud-le-Sec. Donc j'ai rectifié, voilà. J'ai bien dit Échenaud cette fois.
Très bien. Oui.
Merci Benoît.
C'est moi qui vous remercie.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Brusset, 280 habitants et sa maison de la nature, labellisée centre permanent d'initiative à l'environnement. Ses 12 salariés, 2 antennes à Saint-Rémy, au nord du département, et à Grand Charmont, dans le pays de Montbéliard, chez le voisin du Doubs. Et cette très très bonne maison de la nature a mis au point une exposition qu'elle propose aux communes afin de connaître les mauvaises herbes, comme on les appelle. Et elle propose une balade découverte pour mieux connaître ces plantes sauvages dans le cadre d'un accompagnement des commune au zéro phytosanitaire. Voilà une bonne initiative CPIE, trait d'union brusset.com pour l'adresse. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, on va pas parler directement du magazine Village, mais du hors-série que vous publiez, qui est sorti depuis quelques jours, qui s'intitule « Élus citoyens en action pour mieux vivre dans les territoires ». Je l'ai mentionné la semaine dernière, c'est un MOOC, donc entre le livre et la revue, de 120 pages. Et c'est fait avec Territoire Conseil de la Caisse des dépôts. Et vous réparez, je trouve, non pas une injustice, mais un manque, c'est que la Caisse des dépôts édite des textes très très utiles à destination des élus, et nous, en général, non-élus, nous n'y avons pas accès. Et là, vous réparez l'erreur, puisque tout le monde a accès à ce document, qui est franchement intéressant. Je mentionne, entre autres, l'entretien que vous avez eu avec Sylvain Baudet, chargé de mission de développement économique, sur les territoires, entre autres les territoires ruraux, article et entretien dans lequel il dit que les territoires ont des ressources infinies. Et donc, c'est des ressources que l'on a du mal à évaluer, souvent.
Oui, et qu'on ne voit pas, parfois. C'est vrai que au niveau local, il y a une offre d'activités possibles liées à des ressources locales. Ça peut être des ressources humaines, mais ça peut être des ressources forestières. Donc ça peut être aussi des ressources en terre crue. On l'a vu pour certains villages autour de la poterie. Mais effectivement, il y a des ressources insoupçonnées qu'on pense même pas à mettre en valeur, ou alors on les brade. C'est-à-dire qu'elles partent, ces ressources, loin du territoire, alors qu'on peut y créer de la valeur ajoutée. Et souvent, c'est quelque chose qui se développe peu. On attend l'entreprise miracle qui va venir s'installer sur la zone d'activité des espérements vides, sans penser à une valorisation de la ressource. Je dis bien une valorisation. Il ne s'agit pas de brader ces ressources, mais au contraire de les préserver tout en pouvant appuyer un développement économique sur celle-ci.
Ouais, et bonne illustration de ce que vous venez de dire, que vous rapporte Sylvain Baudet, c'est que l'importation des matériaux de construction représente le deuxième poste déficitaire de la balance commerciale en France, alors que nous sommes le troisième potentiel forestier d'Europe. Voilà, ça c'est quand même une très bonne illustration. Et il dit autre chose que je trouve pertinent, enfin tout est pertinent d'ailleurs dans la revue et dans le MOOC, c'est que nous sommes bloqués par une culture issue, écrit-il, de la planification à la française. C'est-à-dire qu'on attend finalement la décision venant d'en haut en oubliant les capacités de fabrique et d'invention en bas.
Oui, c'est comme si on avait oublié ce qu'on a vu émerger il y a une vingtaine, trentaine d'années, même le développement local. Il y a eu quelques mouvements et puis là, on l'a un peu oublié, quoi. C'est un peu du bricolage et tout, alors que non, c'est vraiment par une économie aussi productive, locale, s'appuyant sur ses ressources, qu'on peut inverser une tendance et qui peut aussi favoriser une économie, c'est peut-être des gros mots, mais résidentielle. Quand on parle effectivement de matériaux de construction avec des matériaux locaux, ça peut tout à fait favoriser un habitat de qualité où des gens viennent s'installer, on peut même faire de l'insertion, donc résoudre des problèmes d'emploi. Donc c'est vraiment un écosystème qui peut être créé localement, ouvert sur les territoires plus larges.
Et dans les thématiques, donc économie, solidarité, mobilité, démocratie, il y a la santé. Il y a un exemple très intéressant que vous donnez. Alors, c'est un entretien que vous avez eu avec Emmanuel Vigneron, géographe, historien, prof à l'université de Montpellier, sur les soucis de la couverture santé, principalement dans les communautés de communes à tendance rurale. Très souvent, on envisage la solution localement, c'est un peu le chacun pour soi. Et puis un autre frein, dit-il, c'est la politique de prévention. Ce domaine est peu couvert en France pour des raisons historiques liées à la facilité de tarifer les actes de soins plutôt que la prévention. Et effectivement, c'est un véritable souci. L'exemple que vous donnez, c'est un exemple qui est pas loin du siège du magazine Village, c'est Hondouville dans l'Eure.
Oui, alors c'est vrai que c'est important ça, parce qu'il faut travailler multi-acteurs, ça on le voit bien, même le rôle entre le lien entre la pharmacie et le médecin. Si le médecin s'en va, parfois après il n'y a plus de pharmacie, donc il n'y a plus de service de proximité. Enfin là encore, hein, on est dans un système global, on ne peut pas penser les choses séparément, y compris avec le petit hôpital de proximité, où il y a des choses à partager, à mutualiser, c'est le dit très bien. Et c'est vrai que dans tout ça, souvent, on oublie toute la partie prévention, parce que c'est des budgets qu'il faut trouver, que ce soit la prévention contre le suicide ou contre les addictions. Donc là, c'est très compliqué de mobiliser des financements. Les budgets des collectivités locales diminuent, alors que pourtant, ça éviterait beaucoup de dépenses de santé. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, finalement, ça fait fonctionner une économie de l'industrie pharmaceutique, par exemple. Et cela, c'est tout à repenser, mais au plus haut niveau, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à réimaginer sur le financement des soins pour l'ensemble du pays.
Élu et citoyen en action pour mieux vivre dans les territoires, dans ce MOOC numéro 2 hors série du magazine Village, 60 idées à transférer là où vous vivez, profitez-en. Le site, c'est villagemagazine.fr, tout simplement. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.